Chapitre 7. Et cependant, malgré tous les comptes que Boisrobert faisait au cardinal, et quoiqu'il fût bien convaincu que son éminence ne pouvait se passer de lui, Boisrobert tomba un jour dans une disgrâce dont il pensa bien ne point se relever. Voici à quelle occasion. Le cardinal faisait répéter Miram avec une double haine, haine du poète contre Corneille, haine d'amant contre Anne d'Autriche. À l'une des répétitions, Boisrobert reçut mission de faire entrer des comédiens, des comédiennes et des auteurs seulement. On voulait juger de l'effet que ferait la pièce sur des gens du métier. L'ordre était formel, mais le pauvre Boisrobert était un peu catin de sa nature. Lorsqu'on lui demandait une chose avec quelque insistance, il ne savait pas refuser. Une charmante drôlesse nommée Saint-Amour, qui avait un demi-droit à avoir ses entrées, ayant été un temps de la troupe de Mondory, insista tant et si bien qu'elle obtint de lui d'avoir une place. Comme on allait commencer, M. le duc d'Orléans force la portière et entre. Le cardinal était furieux, mais n'osait mettre dehors le premier prince du sang, d'autant plus que celui-ci, sentant que résistance lui était faite, s'était entêté à entrer. Son apparition fit remue-ménage dans la salle. La petite Saint-Amour, à qui Boisrobert avait recommandé de garder son voile baissé, n'y put tenir. Elle trouva l'occasion bonne, le leva et fit tant que Gaston la vit. Quelques jours après, on jouait la grande comédie. C'était Boisrobert et le chevalier Desroches qui avaient été chargés de faire les invitations. Une liste s'égara et tomba entre les mains d'une femme de vertu équivoque. Celle-ci prévint ses connaissances. Chacune prit un nom porté sur la liste et se présenta. Celle-ci sous le titre de Madame la Marquise de... Celle-là sous celui de Madame la Comtesse de... Deux gentilshommes servaient de contrôleurs. Mais voyant que les noms énoncés étaient en effet sur la liste, ils laissaient entrer et livraient les invités à deux autres qui les menaient au président Viguier et à Monsieur de Valmecy. Vous voyez que l'époque était tolérante. Un magistrat et un prêtre faisaient métier de placeur au spectacle. Le roi, qui cherchait une occasion de dire quelque méchanceté au cardinal, eut connaissance de ce qui s'était passé et, en présence du duc d'Orléans, « Monsieur le cardinal, dit-il, il y avait bien du gibier l'autre jour à votre comédie. »« Et comment n'y en aurait-il pas eu ? » s'écria le duc d'Orléans, saisissant la balle au bond, « puisque dans la salle où l'on ne voulait pas me laisser entrer, était la petite Saint-Amour, qui est une des plus grandes gourgandines de Paris. » Le cardinal entendit, entra en rage, et n'eut d'autre excuse à donner que de s'écrier « Voilà cependant comme je suis servi !» Mais au sortir de là, « Cavois, dit-il à son capitaine des gardes, la petite Saint-Amour était l'autre jour à la répétition, sais-tu cela ?»« C'est possible, votre éminence, répondit Cavois, mais elle n'est pas entrée par la porte que je gardais. » Par malheur pour Boisrobert, se trouvait là Palvoisin, gentilhomme de Touraine, parent de l'évêque de Nantes. Et comme c'était un ennemi de Boisrobert, « Monseigneur, dit-il, elle est entrée par la porte où j'étais. » « Monsieur ! » s'écria le cardinal furieux. « Attendez, monseigneur, c'est monsieur Boisrobert qui l'a fait entrer. »« Ah ! » fit le cardinal, « si ce que vous me dites là est vrai, monsieur Lebois me le paiera. » Le chancelier entendit cette menace et rencontrant Boisrobert, « Monsieur le cardinal est fort en colère contre vous, dit-il, ayez garde de vous présenter devant lui. » Boisrobert voulut s'esquiver, mais, avant qu'il eût atteint la porte, un messager du cardinal était venu lui dire que son éminence l'attendait. Il fallait bien se rendre à l'invitation. Boisrobert obéit et se présenta l'oreille basse. Il n'y avait là que Madame d'Aiguillon, qui détestait Boisrobert. Par bonheur, près d'elle et par contrepoids, était Monsieur de Chavigny qui l'aimait assez. « Boisrobert, dit le cardinal, et non plus le bois c'était pour les bons jours. » « Boisrobert, dit le cardinal, c'est donc vous qui avez fait entrer l'autre jour cette petite coquine de Saint-Amour à la répétition ?»« Monseigneur, répondit Boisrobert, j'ai cru la porte ouverte ce jour-là aux comédiennes et aux auteurs. Or, je ne connais la petite Saint-Amour que comme comédienne, à preuve que je ne l'ai jamais vue que sur le théâtre où votre éminence l'a fait monter. »« Mais, s'écria le cardinal, je vous dis que c'est une carogne !» « C'est possible, monseigneur, répondit imperturbablement Boisrobert. « Mais je tiens toutes ces dames pour telles. »« Comment, monsieur ?»« Monseigneur, est-il d'habitude que l'on se fasse comédien ou comédienne sur un certificat de bonne vie et mœurs ?»« C'est bien, monsieur, dit le cardinal. Vous avez scandalisé le roi. Retirez-vous. » Boisrobert pleura, essaya de faire toutes les excuses de la terre. Le cardinal tint bon. Boisrobert se retira et se mit au lit. Le lendemain, le bruit court que Boisrobert est très malade. Comme il avait beaucoup d'amis d'abord, ensuite, comme on savait le faible du cardinal pour lui, et comment avaient fini toutes ses autres brouilles avec son éminence, c'est-à-dire par une faveur plus grande, toute la cour et même les parents du cardinal l'allèrent visiter. Monsieur le maréchal de Gramont y vint trois fois. À la troisième, il lui dit « Boisrobert, si vous me promettiez de ne pas être un bavard, je vous dirais bien une chose. »« Oh, je vous le jure, monseigneur !»« Eh bien, dimanche, vous serez rentré en faveur. Le cardinal voit le roi samedi et lui demandera votre grâce. » C'était vrai, mais le roi avait la tête montée par son frère et resta inexorable. Boisrobert, confiant dans la parole du maréchal, se croyait déjà rétabli quand il reçut, au contraire, l'ordre de quitter Paris. Il avait le choix entre son abbaye, qui s'appelait Châtillon, et Rouen, dont il était chanoine. Il préféra Rouen. C'est à Rouen que, pour entrer en grâce, il fit son ode à la Vierge, où se trouvent ces deux strophes. Par vous, de cette mer, j'évite les orages, dans ce port plein d'écueils et fertile en naufrages. Vous m'avez fait trouver un asile en ce lieu, trop heureux si jamais, dans sa sainte retraite, je pouvais oublier la perte que j'ai faite en perdant Richelieu. Cet esprit sans pareil, ce grand et digne maître, m'a donné tout l'éclat où l'on m'a vu paraître. Il m'a d'heure et de gloire au monde environné. C'était bien passagers et sujets à l'envie, mais quand il m'a donné l'exemple de sa vie, n'a-t-il pas tout donné ? Toutefois, son éminence résista à l'ode, comme elle avait résisté aux prières et aux larmes. Alors Boisrobert comprit qu'il y avait là-dessous quelque chose de plus grave que d'avoir fait entrer une petite coquine dans une salle où il y en avait bon nombre de grandes. Il chercha dans ses souvenirs et voici ce qu'il se rappela. C'était à l'époque de la plus grande faveur de M. de Saint-Marc. Nous n'en sommes pas encore arrivés là, mais parfois nous sommes forcés d'anticiper. Le cardinal avait un espion qu'on nommait Lachesnais. Monsieur le Grand, on se rappelle que c'était ainsi que l'on appelait Saint-Marc à cause de son titre de grand écuyer, Monsieur le Grand voulait perdre cet espion. Il eut l'idée de s'adresser à Boisrobert et, un jour, à Saint-Germain, se trouvant seul à seul avec lui. « Pardieu, Monsieur le Bois, lui dit-il, j'ai toujours fait le plus grand cas de vous et Monsieur le Maréchal des Fiats, mon père, vous a toujours aimé. » Boisrobert s'inclina. Monsieur le Bois, continua le grand écuyer, jusqu'à présent, vous n'avez chassé que moineaux et alouettes. Mais moi, je veux vous faire faire une vraie chasse de gentilhomme, c'est-à-dire vous faire voler perdrix et faisans. Que diable, il est temps que vous pensiez à votre fortune et attrapiez quelques grosses pièces. Boisrobert savait le jeune gentilhomme léger. Aussi continuait-il de s'incliner sans répondre. Monsieur le Grand fut donc forcé d'accoucher seul. Monsieur le Bois, dit-il, je vous prie de me servir. Arrivé à ce point, il fallait répondre oui ou non. Boisrobert trouva encore moyen, cependant, de ne répondre ni oui ni non. Vous servir, monsieur, bien volontiers, mais en quoi ? Eh bien, monsieur le Bois, continua Saint-Marc, la chaînée me trahit. Il y a eu à mon sujet, avec monsieur le cardinal, une longue conférence à la suite de laquelle monsieur le cardinal m'a traité comme un écolier. Vous pouvez sûrement me dire qui a introduit Lachesnais près du cardinal et quels sont ses amis dans la maison. « Et dans quel but, monsieur ?» demanda Boisrobert. « Dans quel but ? Mais parce que je les veux tous perdre. Ah, monsieur le cardinal me maltraite, soit, mais par la mordieu, lui ou moi y passera. » Boisrobert courba la tête. Il n'y avait qu'un fou comme Monsieur le Grand qui pût se permettre de menacer la première personne après le roi, ou pour mieux dire, la première personne avant le roi. Il promit cependant à Monsieur de Saint-Marc de le servir et de lui dire quels étaient les amis de Lachesnais. sur quoi M. de Saint-Mars le quitta. À peine le grand écuyer eut-il tourné l'angle du mur que Boisrobert prit sa course et s'en alla tomber chez Madame de Lansac, gouvernante de M. le Dauphin, lui demandant conseil comme à une femme sage. « Mon ami, répondit celle-ci sans hésiter, c'est de tout dire au cardinal. » « Mais, s'écria Boisrobert, c'est une dénonciation purement et simplement que vous me conseillez là, madame. »« C'est votre salut que je vous prie de prendre en considération. » Mais Boisrobert secoua la tête. « Jamais, dit-il, il n'y a dans tout cela qu'une boutade de jeune homme, et jamais pour si peu je ne me déciderai à nuire à monsieur Legrand. » En effet, à partir de ce moment, Boisrobert se contenta d'éviter le grand écuyer, passant d'un côté quand il le voyait arriver de l'autre. Mais M. Legrand jugea mal cette discrétion de Boisrobert. Il se mit dans l'esprit que celui-ci lui avait joué un méchant tour, et pour le lui rendre, il parla mal de lui au roi, racontant tous les mauvais propos que l'on tenait sur l'abbé de Châtillon et sur le chanoine de Rouen. Or, on disait beaucoup de choses sur Boisrobert. Les propos les plus scandaleux avaient été tenus par un monsieur de Saint-Georges. Voici, il est vrai, à quelle occasion ces propos avaient été tenus. Il y avait un gouverneur de Pont-de-l'Arche nommé Saint-Georges. C'était le Saint-Georges en question. Boisrobert avait découvert qu'il percevait un droit sur chaque bateau qui remontait la rivière et que, ce droit étant censé être perçu au profit du cardinal, ces bateaux s'appelaient des cardinaux. Cette fois, comme l'honneur de son patron était intéressé dans l'affaire, Boisrobert lui conta tout. Monsieur de Saint-Georges perdit son gouvernement. Mais pour se venger, il raconta partout que Boisrobert avait des goûts antiques. Le propos fut répété, et comme toute calomnie porte avec elle un certain parfum qui plaît aux mauvaises gens, on alla à la recherche des preuves. Ces preuves furent-elles fournies? Ce n'est pas ce qui doit nous occuper. L'important pour nous est de savoir que le roi dit à son éminence que Boisrobert déshonorait la maison de son maître. Le résultat de tout cela était, comme nous l'avons dit, que Boisrobert avait été exilé à Rouen, où il faisait des odes à la Vierge. Quoiqu'au fond, le cardinal n'en voulût pas tant à son cher Lebois qu'il en avait l'air, les choses restèrent ainsi jusqu'à la mort de M. Legrand. Cette mort advenue commencée, chacun paria pour Boisrobert, et tout particulièrement Mazarin, qui lui écrivit « Vous pouvez retourner à Paris si vous y avez des affaires ». Boisrobert y revint avec 22 000 écus d'argent comptant, et comme sa plus pressante affaire était de jouer dès qu'il en trouvait l'occasion, car il était joueur comme les cartes et les dés mariés ensemble, il joua et perdit les 22 000 écus. Le cardinal Mazarin, de retour lui-même à Paris, écrivit aussitôt à Boisrobert. « Demandez-moi dimanche prochain, et fussé-je dans la chambre à coucher de son éminence, venez m'y trouver ». Boisrobert se rend à l'invitation. Mazarin était, en effet, dans la chambre à coucher du cardinal. Boisrobert y entre. À peine Richelieu l'aperçoit-il, qui lui tend les bras et se met à sangloter. Boisrobert s'attendait si peu à cette réception qu'il en fut tout étourdi et que lui, qui pleurait si facilement, ne trouva point une larme. Que devenir dans un pareil état de sécheresse et quand un cardinal pleure? Faire le saisit. « Ah, mon Dieu !» s'écria Boisrobert, « les larmes m'étouffent, monseigneur, et cependant, je ne puis pleurer. » Et Boisrobert se laisse aller dans un grand fauteuil. « Si toi, si toi !» crie le cardinal, « le bois se trouve mal !»« Venez vite, si toi !» ajouta Mazarin, qui comprend que tout l'avenir de Boisrobert est dans ce moment. « Venez vite et saignez, monsieur le bois !» Monsieur le bois ne se trouvait point mal le moins du monde. Mais pour ne pas avoir l'air d'avoir joué la comédie, force lui fut de se laisser saigner. Citoy lui tira 3 bonnes palettes de sang. Le seul bien que ce pleutre de Mazarin m'ait jamais fait, disait plus tard Boisrobert, ce fut de me faire saigner un jour que je n'en avais pas besoin. Le cardinal de Richelieu mourut. Boisrobert, en faisant ses compliments de condoléances à Madame d'Aiguillon, lui dit « Madame, je suis votre serviteur, comme j'ai été celui de M. de Richelieu. » Madame d'Aiguillon le remercia, lui promettant que, de son côté, elle ne tarderait pas à lui donner des marques de son affection. Sur cette assurance, Boisrobert se retira. Ces marques d'affection que devait recevoir Boisrobert, c'était que Madame d'Aiguillon, dont le neveu avait à sa nomination des abbayes dont dépendaient des prieurés, lui donna quelques-unes de ces abbayes au fur et à mesure qu'elles seraient vacantes. Boisrobert se mit donc à l'affût des prieurés comme un chasseur se met à l'affût des lapins. Aussitôt qu'il savait un prieuré vacant, il arrivait, la jambe tendue et le feutre à la main, chez Madame d'Aiguillon. Mais celle-ci, d'un air contrit, lui annonçait qu'il arrivait 24 heures trop tard et que le prieuré avait été donné la veille. Enfin, Boisrobert se douta qu'il y avait là-dessous quelque fourberie et, pour en être éclairci, il alla trouver Madame d'Aiguillon avec une lettre qui lui donnait avis que le prieuré de Kermaçonnet était vacant. « Ah, mon cher Boisrobert !» s'écria Madame d'Aiguillon. « Vous jouez vraiment de malheur !»« Bon, » dit Boisrobert, « il a été donné hier ?»« Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas 2 heures. Oh, que n'êtes-vous venu ce matin ?»«
Je fusse venu ce matin, madame, » répondit Boisrobert, « que je n'eusse pas été plus avancé. »«
Pourquoi cela ?»« Parce que vous ne pouvez pas plus disposer de ce prieuré-là que de la lune. »«
Qu'est-ce à dire ?»
Qu'il n'y a jamais eu de prieuré de ce nom-là, madame, et que, cette fois, je me retire convaincu de votre sincérité et de votre bonne foi. Serviteur. Et Boisrobert se retira effectivement et ne remit jamais les pieds chez Madame d'Aiguillon. Grâce à son esprit agressif et à son caractère mordant, les aventures du genre de celles que nous avons racontées ne manquaient pas à Boisrobert. Un de ses démêlés les plus acharnés eut lieu avec Louis-Philippe, seigneur de Lavrière et de Châteauneuf-sur-Loire, secrétaire d'État. Monsieur de Lavrière avait ôté de dessus l'état des pensions un frère de Boisrobert nommé Douville. Ce frère était ingénieur de son état. Boisrobert, qui connaissait la cour et la ville, fit assigner Monsieur de Lavrière à l'endroit du sudit Douville. Enfin, chacun lui ayant dit que Monsieur le secrétaire d'État était ébranlé, et qu'une dernière visite de lui, Boisrobert, enlèverait la place, Boisrobert se décida à aller trouver le secrétaire d'État. Mais, au lieu d'un homme ébranlé, Boisrobert trouva un homme exaspéré. « Ah, mordieu, monsieur Boisrobert !» lui dit le secrétaire d'État. « Vous auriez bien dû vous priver de me faire accabler par tout le monde pour monsieur votre frère, c'est-à-dire pour un homme de nul mérite. »«
Monsieur, répondit Boisrobert, ce que vous me dites de mon frère, je le sais bien. » Vous n'avez que faire de me le dire, car je ne venais pas ici pour l'apprendre. Mais aussi, en me répétant une chose que je savais, vous m'avez appris une chose que je ne savais pas. C'est que les ministres d'État jurassent comme vous faites. Ce mordieu que vous m'avez si galamment jeté au visage irait aussi bien et même mieux à un charretier qu'à vous. Allez, monsieur, mon frère sera remis sur l'état malgré vous et malgré vos dents.
Sur quoi il quitta M. de Lavrière et s'en alla trouver le cardinal Mazarin. « Monseigneur, lui dit-il, vous n'avez jamais rien fait pour moi que me tirer 3 palettes de sang du corps un jour où je n'avais pas besoin d'être saigné. Eh bien, je viens vous demander de rétablir mon frère sur les états de pension, quoi que dise et fasse contre cela M. de Lavrière. Il y va de mon honneur. » Mazarin engagea sa parole. Mais, comme qui tenait la parole de Mazarin ne tenait pas grand-chose, Boisrobert, connaissant la valeur du gage, voulut commencer à donner cours à son ressentiment. Il fit une satire contre le secrétaire d'État, qu'il appela Tyrus. Dans cette satire, il y avait, entre autres vers de même force, les 2 suivants. Le Saint-Esprit, honteux d'être sur ses épaules, pour 3 sots comme lui, s'envolerait des Gaules. Puis, la satire terminée, Boisrobert prit un carrosse et, se faisant descendre de porte en porte, se mit à la chanter à tout le monde. Monsieur de Lavrière n'était point adoré, qui en retint 2 vers, l'autre 6, l'autre 10, de sorte qu'au bout de 8 jours, la satire était connue de tout Paris. Un matin, Monsieur de Chavigny accourut chez Boisrobert pour l'avertir que Lavrière devait aller au palais royal faire ses plaintes. Boisrobert court chez son ami, le maréchal de Grammont, et arrive avec lui près de Mazarin. « Eh bien, dit Mazarin, avant même que Boisrobert eût ouvert la bouche, vous avez donc fait une satire contre ce pauvre Monsou Philippot ?»«
Monseigneur, répondit Boisrobert, ce n'est pas le moins du monde contre M. Philippot que j'ai fait mes vers. J'ai lu les caractères de Théophraste et, à son imitation, je me suis amusé à tracer le caractère d'un ministre ridicule.
Vous voyez l'injustice, monseigneur, ajouta M. de Grammont. Ce pauvre Boisrobert allait cancaner de cela, lui qui est innocent comme l'enfant qui vient de naître.
Voyons, Boisrobert, fit le cardinal, dites-moi cette satire.
On en était au dernier vers et le cardinal se tenait les côtes de rire lorsqu'on annonça l'Avrilière.
Entrez là, dit Mazarin à Boisrobert et à M. de Grammont, et ne vous inquiétez de rien.
L'Avrilière se présenta furieux.
« Monseigneur, cria-t-il de la porte, je viens vous demander justice. »«
Oh, mon sou l'Avrilière, justice !» dit Mazarin.
« Mais c'est mon devoir de vous la rendre. Et contre qui, justice ?»«
Contre un misérable poète, un lâche pamphlétaire qui m'a insulté, vitupéré. »«
Bah !
Qui m'a littéralement vidé une bouteille d'encre sur le visage. »
Et il raconta la chose.
« Bon, dit Mazarin, est-ce tout ?»«
Comment est-ce tout ? Votre éminence trouve-t-elle donc que ce n'est point assez ?»«
Mais ce n'est point de vous qu'il est question, mon sermon sous l'Avrilière. »«
De qui donc ?»«
D'un ministre ridicule. »«
D'un ministre ridicule ?»«
Oui, vous voyez bien que ce ne peut être vous. D'ailleurs, la satire est imitée des caractères de Théophraste. »
Et il fallut que Monsou de l'Avrilière se contentât de cette réponse.
L'Avrilière s'en alla. Le cardinal fit sortir du cabinet Boisrobert et le maréchal de Grammont, qui avaient tout entendu et qui crevaient de rire.
« Mais, monseigneur, mon imbécile de frère !» insista Boisrobert.
« Soyez tranquille, » répondit Mazarin. « Il aura sa pension. Vous avez ma parole. »
Malgré la parole de Mazarin, la pension ne reparaissait pas.
Boisrobert était tous les matins dans l'antichambre du cardinal.
« C'est ordonné, mon sou Boisrobert, » disait Mazarin.
« C'est ordonné, c'est possible, » répondait Boisrobert, « mais ce n'est pas fait. »«
Cela se fera. »
« Monsieur de l'Avrilière soutient, monseigneur, que cela, au contraire, ne se fera pas quand la reine elle-même le lui commanderait. Après cela, vous comprenez, monseigneur, il ne lui reste qu'à monter sur le trône. »
Pendant ce débat, M. d'Emery, beau-père de l'Avrilière, invita son gendre à dîner chez lui et, comme par oubli, invita Boisrobert au même dîner et plaça les antagonistes en face l'un de l'autre. Boisrobert fut éblouissant d'esprit. Enfin, M. de l'Avrilière eut la main forcée et donna ordre à son commis Penoux de délivrer le nouveau brevet. Mais le brevet ne venait pas. Boisrobert alla trouver Penon et lui montra 10 pistoles. Aussitôt, l'autre délivra ce brevet. Quand Boisrobert eut ce brevet,
« Ah, monsieur, dit-il à Penoux, ne vous ai-je pas offert de l'argent ?»«
Mais oui, monsieur, dit celui-ci, vous m'avez fait l'honneur de m'offrir 10 pistoles. »«
Oh, monsieur, s'écria Boisrobert avec l'apparence du plus profond regret, je vous demande bien pardon d'avoir commis une pareille inconvenance. De l'argent, à vous, il fallait que je fusse ivre. »
Et il remit ses 10 pistoles dans sa poche et sortit en portant le brevet. Pendant 3 ans, Douville fut payé de sa pension. Au bout de 3 ans, M. de l'Avrilière tenta un essai. Il retira le brevet de Douville.
« Monsieur le secrétaire d'État, lui écrivit Boisrobert, je vous promets que si dans 24 heures le brevet de mon frère ne lui est pas rendu, dans 8 jours la satire que vous savez sera imprimée. »
Le brevet fut rendu. Le cardinal félicita Boisrobert de son expédient.
« Ce n'est qu'un coquin, répondit Boisrobert. Il aurait dû me faire assommer de coups de bâton. »
Ce qui nuisait à Boisrobert dans le monde où il vivait, c'était son incontinence de langue. Jamais Boisrobert, en face de qui que ce fût, ne renfonça un bon mot qui lui venait sur les lèvres. Un jour, il alla voir messieurs de Richelieu au Petit Luxembourg. On appelait messieurs de Richelieu les 3 fils de Vignerot, marquis de Pontcoulet et de Françoise Duplessis, substitués tous 3 aux noms et armes de Richelieu par le testament du cardinal. Un jour, disons-nous, il alla voir messieurs de Richelieu au Petit Luxembourg et y fut reçu par Madame de Sauvé, femme de l'intendant de Madame d'Aiguillon et qui avait la réputation d'une fort impertinente personne. Ah ! Cria-t-elle à Boisrobert du plus loin qu'elle l'aperçut. « Vous arrivez bien !»«
Comment cela ?»«
Oui, j'ai à vous gronder !»«
S'il en est ainsi, permettez-moi de recevoir l'absolution comme il convient à un vrai chrétien. »
Et Boisrobert se mit à genoux.
« Un vrai chrétien, vous ? Vous qui passez partout pour un impie et un athée ?
Et vous croyez à ces propos-là ?
Non, je vous jure !»«
Vous avez bien raison !» N'ai-je pas entendu dire partout que vous étiez une coquine ?
Ah, monsieur, que dites-vous là ? S'écria la dame.
Oh, répondit Boisrobert, j'ai fait comme vous à mon égard. Rassurez-vous, je n'en ai rien cru. Mais la chose la plus dure à Boisrobert, et celle sur laquelle il avait le plus de peine à se blanchir, c'était l'accusation qui fit tomber le feu du ciel sur les villes maudites.
Qu'avez-vous donc, monsieur de Boisrobert ?
Lui demandait un jour Mademoiselle Nelson, fille d'esprit, qui épousa depuis le conseiller d'État Gérard Le Camus.
« Vous voilà tout en âge !»«
Mademoiselle, dit Boisrobert, je viens de faire des visites à mes juges. »«
Pour votre compte ?»«
Non, pour celui d'un de mes laquais, que ces messieurs voulaient pendre à toute force. »«
Voir, répondit la demoiselle, les laquais de Boisrobert ne sont faits que pour la potence et m'est avis qu'ils ne doivent craindre que le feu. »
Un autre jour, il arriva que le portier de Beautru, se disputant avec le laquais du poète, donna à son antagoniste des coups de pied au derrière. Le laquais vint se plaindre à son maître et voilà Boisrobert enragé et faisant grand bruit de l'aventure.
« Il a raison, dit le maréchal de Gramont, la chose est bien plus offensante pour Boisrobert que pour un autre.
« Pourquoi cela ? Demande un des questionneurs qui ne sont là que pour donner naissance à une réponse.
« Dame, au laquais de Boisrobert, le derrière tient lieu de visage, » répondit le maréchal. « C'est la partie noble de ces messieurs-là. »
Les dévotes avaient fait mettre Ninon aux Madelonnettes, et des Madelonnettes, l'immortelle courtisane écrivait à Lebois.
« Je suis ici, de la part des bonnes filles, l'objet d'excellents traitements. Aussi je pense que, si j'y reste encore un temps, à votre imitation, je finirai par aimer mon sexe. »
Un jour, on parlait devant Boisrobert de généalogies fabuleuses telles que celle de la maison de Lévis qui se prétend parente de la Vierge ou de la maison de Mérode qui descend, dit-elle, de Mérové.
« Pour moi, dit Boisrobert, j'ai envie, puisque je me nomme Métel, de me faire descendre de Métellus. »«
En tout cas, ce ne sera point de Métellus Pius, » répondit quelqu'un qui se trouvait là. La fronde arriva. Et, en véritable courtisan qu'il était, Boisrobert fit des vers contre les frondeurs. Le coadjuteur de Paris, frondeur enragé, invita Boisrobert à dîner. Le poète, très gourmand, et sachant qu'on dînait fort bien chez M. de Gondy, se rendit à l'invitation. Après dîner, et comme on prenait le café au salon, ce fameux café qui venait de naître aux horizons de la gourmandise et qui, au dire de Madame de Sévigné, devait passer comme racine.
« Monsieur de Boisrobert, demande le coadjuteur, vous allez nous dire vos vers sur les frondeurs, n'est-ce pas ?»«
Bien volontiers, fit Boisrobert. »
Il tousse, il se mouche, il crache, et sans affectation, s'étant approché de la fenêtre et ayant mesuré la distance de l'étage où il se trouvait jusqu'au sol,
« Non, par ma foi, dit-il, je change d'avis, votre fenêtre est trop haute. »
La prêtrise, disait l'abbé de la Victoire, est à Boisrobert ce que la farine est au bouffon. Elle sert à le faire paraître plus grotesque encore. Un soir, à l'une de ses pièces, un comédien laissa échapper une expression d'un Français hasardé.
« Ah, le malheureux, dit-il, il me fera chasser de l'académie. »
Boisrobert composa force comédies dont la plupart sont inconnues aujourd'hui. Presque toujours, il y mettait en scène des gens vivants et connus, de sorte que les originaux, se reconnaissant dans les copies, faisaient grand bruit, répandaient force plaintes, proféraient force menaces. Dans l'une d'elles, intitulée « La belle plaideuse », il mit un avare avec son fils. Tous deux se rencontraient chez un notaire, où l'un venait placer et l'autre emprunter à gros intérêt.
« Ah, jeune débauché !» disait le père. « C'est toi ?»
« Ah, vieil usurier !» disait le fils. « C'est vous ?» Le père était le président de Bercy. Le fils était son fils.
Molière prit la scène à Boisrobert et la mit carrément dans l'avare. « Comment, dit-on à Molière, vous allez emprunter une scène à ce bouffon de Boisrobert ?»«
Bon, dit l'auteur du Misanthrope et de Tartuffe, c'est une fille que je tire d'une mauvaise maison pour la conduire dans la bonne société. »
Un jour, le prince de Conti, le bossu, assistait à une des pièces de Boisrobert.
« Oh, fille, monsieur de Boisrobert, lui dit-il de la loge où il était, la méchante pièce que vous nous donnez là !»
Boisrobert, qui était assis sur le théâtre, se leva et, s'avançant vers la rampe, salua le prince.
« Oh, monseigneur ! Cria-t-il, vous me confondez de me louer ainsi en ma présence !»
Le prince de Conti avait parlé bas, Boisrobert avait répondu haut. Personne dans la salle n'avait entendu l'apostrophe. Tout le monde entendit la réponse, de sorte qu'il n'y eut pas un spectateur qui ne crût qu'effectivement le prince avait fait un compliment à Boisrobert. On l'obligea parfois de dire la messe. Madame Cornuel, si connue pour ses bons mots, dont nous citerons quelques-uns en leur lieu et place, assistait à une messe de minuit, dite incognito par Boisrobert. Au Dominus Vobiscum, Boisrobert se retourne vers ses auditeurs. Madame Cornuel jette un cri et sort. À la porte, elle rencontre une de ses amies.
« Où allez-vous donc ? Lui demande l'amie.
« Chez moi, bon Dieu !
Et pourquoi quittez-vous la messe à l'introïte ?
Parce que j'ai trouvé Boisrobert dedans et qu'il m'en a dégoûté. » Lui sut cela et fit un sonnet sur le mot Cornuel et l'analogie qu'il avait avec corne. Mais Madame Cornuel s'en moqua. C'était elle qui avait dit, à propos d'un homme qui avait fort crié en apprenant que sa femme le trompait et qui, ensuite, s'était fait un revenu des galanteries de la dame,
« Les cornes, c'est comme les dents. Cela fait mal quand cela pousse, mais après, on mange avec. »
Boisrobert faisait un conte sur deux gentilshommes campagnards qui venaient de temps en temps à la cour, l'un que l'on nommait Monsieur de Beuvron, l'autre Monsieur de Croisy, et qui étaient frères. Boisrobert racontait qu'un jour où, à cause de la grande chaleur, on craignait pour la récolte, il vint une pluie de 5 heures. Pendant ces 5 heures, les deux gentilshommes se promenèrent dans le salon de leur château, regardant tomber la pluie par la fenêtre ouverte et ne se disant autre chose l'un à l'autre que
« Mon frère, que de foin !
Mon frère, que d'avoine !» Le conte eut tant de succès et fut si bien répandu que, quand les deux gentilshommes vinrent à Paris, on appela l'un « que de foin » et l'autre « que d'avoine ». Boisrobert n'avait point d'enfants, mais seulement des neveux assez pauvres d'esprit. Il avait une maison aux champs. Le hasard voulut qu'elle s'appelât Ville-Loison.
« Comment diable ? Lui demanda Saint-Évremond. « Avez-vous acheté une maison ainsi nommée ?»«
C'est pour la substituer à mes neveux, » répondit Boisrobert. Outre son premier exil à Rouen, Boisrobert fut exilé une seconde fois par la cabale des dévots pour avoir mangé de la viande en carême et avoir juré horriblement un jour qu'il perdait. Une fois en exil, il s'adressa à Madame de Mancini, qui s'employa à le faire revenir et qui y réussit. Parce que, ayant perdu 40 écus contre elle le soir où j'ai tant juré, répondit Boisrobert, elle avait tout intérêt à ce que je revinsse pour les lui payer. Une lettre que l'on reçut au palais, qu'elle fût écrite de bonne foi ou par malice, le fit fort enragé. Un homme de Nancy demandait au diseur de nouvelles. « Je vous prie, messieurs, de me dire si ce que l'on nous a mandé à Nancy est véritable, c'est-à-dire que Boisrobert s'est fait turc et que le grand seigneur lui a donné d'immenses revenus avec une foule de beaux petits pages pour le servir. » Et que, de Constantinople, ce même Boisrobert a écrit aux libertins de la cour « Vous autres, messieurs, vous vous amusez à renier Dieu 100 fois le jour. Je suis plus fin que vous, je ne l'ai renié qu'une et m'en trouve fort bien. » Il tomba malade vers l'âge de 70 ans et, comme sa vie fort dissipée donnait des inquiétudes sur son sort, Madame de Châtillon, sa voisine, vint l'exhorter à faire une fin chrétienne. Il s'y résolut et, comme première preuve d'humilité, il disait aux assistants « Oubliez Boisrobert vivant et ne considérez que Boisrobert mourant. » comme son confesseur, pour le rassurer, lui disait que Dieu avait pardonné à de plus grands pécheurs que lui.
« Oh oui, mon père, répondit-il, il y en a de plus grands. Il y a l'abbé de Villarceau, mon hôte, qui me gagnait toujours mon argent et qui est un plus grand pécheur que moi. Et cependant, je ne désespère pas que Dieu lui fasse miséricorde. »
« Monsieur l'abbé, lui disait madame de Thoré, la contrition est une vertu. »
« Je vous la souhaite de tout mon cœur, madame, » répondit Boisrobert.
On se rappelle son fameux mot au moment de mourir. « Je me contenterai d'être aussi bien avec notre Seigneur que je l'ai été avec son éminence, le cardinal de Richelieu. » Comme il tenait le crucifix, demandant pardon à Dieu, « Ah, dit-il, au diable soit ce sacré potage que j'ai mangé chez Dolonne. Il y avait de l'oignon et c'est ce qui m'a fait mal. » Puis il reprit, « Le cardinal de Richelieu m'a gâté. Il ne valait rien, c'est lui qui m'a perverti. » Et il trépassa. Nous avons tout à l'heure nommé madame Cornuel. Disons quelques mots de cette femme dont l'esprit était devenu proverbial sous le règne de Louis XIII et même sous celui de Louis XIV. Deux ou trois fois, madame de Sévigné l'a citée. Elle était fille d'un certain monsieur Bigot, que l'on appelait Bigot de Guise, parce qu'il avait été intendant du duc Henri de Guise. Son père, qui était riche, la maria à monsieur Cornuel, frère du président Cornuel. C'était une fort jolie personne qui avait l'avantage, ou le défaut comme on voudra, d'être fort éveillée. De là la plaisanterie de Boisrobert sur le nom de son mari. Le mari était très vieux et, sans doute, par la cohabitation, avait-il gagné de l'esprit de sa femme. Voyageant un jour avec deux jeunes filles fort jolies et âgées de 16 ans à peine, la voiture dans laquelle ils se trouvaient tous trois versa au bord d'un précipice, et ce fut miracle qu'elle ne se trouva point entraînée. Par bonheur, les trois voyageurs, au lieu de la mort inévitable qui les attendait dans cette chute, sortirent sains et saufs de la voiture. « Mesdemoiselles, dit M. Cornuel en se retrouvant sur ses pieds, me voici redevenu un vieillard et vous de jeunes et charmantes enfants. Mais il y a 2 minutes, nous étions tous les trois du même âge. » Madame Cornuel avait été la maîtresse du marquis de Sourdis. Un jour que celui-ci l'attendait chez elle et qu'elle se faisait trop longtemps attendre, il avisa de traiter la femme de chambre comme il eût traité la maîtresse si elle eût été là. La femme se trouva grosse et elle avait grand peur d'être renvoyée par sa maîtresse. Mais quand celle-ci sut la chose, elle garda au contraire sa camériste, la fit accoucher et eut soin de l'enfant qu'elle entretint en disant « C'est trop juste puisqu'il a été fait à mon service. » Elle avait un procès dans lequel un maître des requêtes nommé Sainte-Foy était rapporteur. Elle allait souvent chez lui mais avait grand-peine à lui faire entendre ses raisons, ne le trouvant jamais. Un jour, comme de coutume, elle alla pour le solliciter. Le portier lui dit que son maître n'y était pas.
« Et où est-il donc ?» demanda madame Cornuel.
« Madame, répondit le portier, il entend la messe. »«
Hélas, mon ami, répondit-elle, par malheur, il n'entend que cela. »
Puis, rentrant chez elle,
« Ce Sainte-Foy, dit-elle, s'appelle Sainte-Foy comme les blancs-manteaux qui sont habillés de noir s'appellent blancs-manteaux. »
Elle était l'amie d'une demoiselle de Prême, ancienne chanoinesse. Cette demoiselle de Prême avait été fort jolie. Comme elle atteignait la quarantaine, elle commençait à passer, quoique depuis l'âge de 25 ans, pour conserver son teint, elle mit constamment un masque.
« Hélas, disait madame Cornuel, la beauté de ma pauvre amie est comme un lit qui s'use sous la housse. »
Un jour, les fermiers généraux des aides saisirent un panier de gibier qu'on lui envoyait de la campagne. On lui donna avis de cette confiscation et elle envoya redemander son panier que, de crainte de ses bons mots, messieurs les fermiers s'empressèrent de lui rendre. Mais cette condescendance de leur part ne les sauva point. En revoyant son panier,
« Il paraît que ces gens-là me connaissent, dit-elle. « Vous verrez que quelqu'un d'entre eux aura été laqué dans quelque bonne maison de ma connaissance. »
Dans la promotion du Saint-Esprit, où le comte de Choiseul reçut l'ordre, ordre dont sa qualité et son mérite le rendaient tout à fait digne, il y eut 5 ou 6 chevaliers dont, au contraire, le mérite et la naissance étaient fort attaquables. Quelques jours après, Madame Cornuel, se disputant avec le comte de Choiseul, et celui-ci insistant dans la discussion, « Taisez-vous, dit-elle, ou je vous nommerai vos confrères. » Pendant que la chambre des poisons était établie, et que, pour donner une certaine créance au bruit qui courait, et peut-être aussi une plus longue durée à cette chambre, dont les membres étaient largement rétribués, on pendait tous les jours quelques pauvres diables. « Mon cher conseiller, disait Madame Cornuel à M. de Beson, qui était de cette commission, il est vraiment honteux pour vous de ne faire pendre que des gueux, et si j'étais messieurs les juges, je ferais une collecte entre robes noires afin de louer des habits à la friperie pour habiller ces malheureux quand on les exécute. Peut-être ainsi, du moins, en imposerait-on au public. » Puis, comme on lui disait que, dans les procès des empoisonnements, on brûlait avec ceci leur procès, « C'est bien, dit-elle, mais pour être tout à fait juste avec les empoisonneurs et leurs procès, il faudrait encore brûler les témoins et les juges. » Comme on vantait devant elle la naissance de M. le duc Rohan Chabot, « Oui, dit-elle, il est bien né, c'est incontestable. Seulement, il a été mal fouetté. » Du temps de Madame Cornuel, on portait des flots de rubans. On lui dit que Madame de la Reynie, grande, maigre et femme du lieutenant de police, en portait une échelle. « Hélas !» répondit-elle, « si ce que vous me dites est vrai, j'ai bien peur qu'il y ait une potence dessous. » Un jour, étant dans l'antichambre de M. Colbert, qui la faisait attendre, et y étouffant à cause d'un grand feu que l'on faisait dans le poêle, « Eh mon Dieu !» dit-elle, « sans nous en douter, ne serions-nous pas ici en enfer ? On y brûle et tout le monde est mécontent. » Un jour, le marquis d'Aluy, relevant d'une maladie que l'on avait crue mortelle, vint la voir fort pâle et fort changée. « En le voyant entrer en cet état, dit le soir Madame Cornuel à ses amis, j'ai été sur le point de lui demander s'il avait une passe du fossoyeur pour aller ainsi par la ville. » La comtesse de Fiesque, personne très fantasque, avait tenu sur Madame Cornuel je ne sais quel propos que l'on rapportait à celle-ci. « Que voulez-vous ? Dit Madame Cornuel. « La comtesse s'entretient dans l'extravagance comme les cerises dans l'eau de vie. » Un jour, cette même comtesse de Fiesque, que Madame Cornuel signalait comme atteinte de folie, disait devant elle qu'elle ne savait vraiment pas pourquoi l'on trouvait M. de Combourg fou et qu'assurément il parlait comme un autre. « Ah, comtesse, dit Madame Cornuel, vous avez mangé de l'ail !» Un imbécile qui, en outre, avait le malheur plus grand encore de sentir mauvais, se fit présenter un jour à Madame Cornuel et resta une heure dans son salon sans desserrer les dents. Lui sortit. « En vérité, dit Madame Cornuel à ceux qui demeuraient après lui, il faut que cet homme soit mort s'il sent mauvais. » Un de ses laquais, fort bête et qui faisait sottise sur sottise, fit un jour celle de se laisser tomber à quatre pattes devant elle. « Je te défends de te relever, dit-elle, tu es fait pour marcher comme cela. » Comme on s'inquiétait en sa présence de l'endroit où l'on mettrait les nouveaux drapeaux pris sur l'ennemi par le marquis de Luxembourg à la bataille de Saint-Kerck, l'église de Notre-Dame en regorgeant déjà, « Bon, dit Madame Cornuel, on fera de ceci des falbalas aux autres. » On parlait chez elle des grandes débauches que faisaient, dans le faubourg Saint-Germain, cinq ou six dames de cour. « Je sais ce que c'est, dit-elle, c'est une mission que M. l'archevêque de Paris a envoyée dans le quartier pour retirer les jeunes gens du mauvais péché des Valois. » Un soir, en revenant chez elle en voiture, elle fut attaquée par des voleurs. Leur chef entra dans le carrosse et commença par lui mettre la main à la gorge. Mais elle, lui repoussant le bras, « Vous n'avez rien à faire là, mon ami, je n'ai ni perles ni tétons. » On voulait faire dégager une femme de mauvaise vie qui demeurait près d'elle et faisait de la nuit le jour. Mais craignant un plus bruyant voisinage, « Oh, laissez-la » dit-elle. « Il n'aurait qu'à venir à sa place un maréchal ou un serrurier. Au lieu que ce fût elle qui ne dormit plus, ce serait moi. » Madame Cornuel avait déjà 80 ans quand mourut Madame de Ville-Savin, sa voisine, âgée de 92 ans. « Hélas !» s'écria Madame Cornuel en apprenant cette mort. « Me voilà découverte !» Et, en effet, elle mourut quelque temps après.